J'aimerais que nous lisions un passage dans la lettre de Jacques. Le chapitre 3, les 12 premiers versets. Mes frères, ne soyez pas nombreux à enseigner. Vous le savez, nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement. Car chacun de nous commet des fautes de bien des manières. Celui qui ne commet jamais de faute dans ses paroles est un homme parvenu à l'état d'adulte, capable de maîtriser aussi son corps tout entier. Quand nous mettons un mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi tout leur corps. Pensez encore au bateau. Même s'il s'agit de grands navires et s'ils sont poussés par des vents violents, il suffit d'un tout petit gouvernail pour les diriger au gré du pilote. Et il en va de même pour la langue. C'est un petit organe, mais elle se vante de beaucoup de choses, de grandes choses. Ne suffit-il pas d'un petit feu pour incendier une vaste forêt? La langue aussi est un feu. C'est tout un monde de mal. Elle est là parmi les autres organes de notre corps et contamine notre être entier. Allumée au feu de l'enfer, elle enflamme toute notre existence. L'homme, il est capable de dompter toutes sortes de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins, et il les a effectivement domptés. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un fléau impossible à maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Nous nous en servons pour louer le Seigneur, notre Père, et nous nous en servons aussi pour maudire les hommes, pourtant créés pour être ceux qui lui ressemblent. De la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Mes frères, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Avez-vous déjà vu de l'eau douce et de l'eau salée jaillir d'une même source par la même ouverture? Un figuier, mes frères, peut-il porter des olives ou une vigne des figues? Une source salée ne peut pas non plus donner de l'eau douce. Alors, ce que je vous dis ici ce matin, ce n'est pas pour vous, hein, parce que ce texte, évidemment, ne vous concerne pas. Vous êtes certainement parfait et arrivé à la parfaite maîtrise de la langue. Mais ça me concerne, moi, à Tunis. Et n'ayez pas une idée trop idéaliste de ce que c'est que la mission ou un missionnaire. Et nous avons dans l'église ou dans les églises à Tunis ou en Tunisie, nous avons de nombreux témoignages de gens qui se sont convertis, un peu comme on vous a présenté tout à l'heure, par des moyens divers, par l'audiovisuel, par l'internet, etc. Beaucoup, régulièrement, des gens qui viennent à Jésus-Christ. Et l'Église, pourtant, elle ne grandit pas. Et on se demande pourquoi les gens ne restent pas dans l'Église. Parce qu'en fait, l'Église, elle ne peut pas grandir, même si nous sommes convaincus de ses moyens audiovisuels et modernes et technologiques, tout cela, malheureusement, ne fait pas une Église. Une Église, c'est un ensemble de relations. Et dans les relations, il y a la parole, l'échange. Et un des problèmes que nous rencontrons à Tunis, et chez moi en particulier, c'est l'usage de la langue. Il y a quelque temps, je suis entré dans un conflit avec une personne et on a eu une grosse dispute. Et j'ai répliqué sous l'effet de la colère des paroles qui n'étaient pas méchantes. Non. C'était des paroles vraies, des choses justes que je disais, mais des choses dures. Et le problème, c'est que la personne, elle, a compris quelque chose de, ou a ressenti des choses qui allaient bien au-delà de ce que moi j'ai voulu exprimer. Et ça a eu un résultat dévastateur, destructeur. Il a fallu des jours et des jours pour atténuer l'effet de ces paroles que moi j'avais prononcées. Alors j'aurais bien été inspiré de méditer ce verset des Proverbes. Une réponse aimable apaise la colère, mais une parole brutale l'excite. Ce manque de maîtrise m'a amené à réfléchir sur ce pouvoir de la langue, sur cet abus de pouvoir d'un organe si petit. Et donc, en réfléchissant avec ce sujet, vous allez voir un peu quels sont les problèmes que nous rencontrons sur le terrain à Tunis. Comme je l'ai dit tout à l'heure, à Ozoir, vous n'avez pas ces problèmes, donc ne prenez surtout pas personnellement ce que je vais dire. Mais cela vous aidera à prier pour nous, à Tunis. Celui qui prononce beaucoup de paroles s'expose à beaucoup péché. Et pourquoi sommes-nous si tolérants avec les péchés de la langue? La violence, c'est visible, ça choque. L'ivrognerie, c'est horrible. Le sexe, ça on le voit, on est contre, en tout cas ici dans l'Église. Mais en ce qui concerne les paroles qui blessent, c'est moins évident. Et on est beaucoup moins ferme dans ce domaine-là. La parole, on l'utilise couramment, ça fait partie de la vie quotidienne, de nos relations. On parle à tout le monde, de tout le monde. Et la frontière entre une bonne utilisation et une mauvaise utilisation des paroles ne nous semble pas toujours très claire. C'est pas aussi évident que dans les autres domaines. Et puis il y a aussi tellement de manières d'habiller les choses, n'est-ce pas? Alors, j'ai pensé qu'il y a trois domaines, entre autres. On ne va pas tout couvrir, on n'a pas le temps, et c'est tellement vaste. Mais j'ai pensé à trois domaines où on peut blesser et détruire avec ces paroles. Il y a d'abord les paroles maladroites. Et là-dedans, la première chose, ce sont les plaisanteries. Alors, nous aimons tous rire, et moi le premier. Oui, c'est vrai, moi aussi. Il ne faut pas se fier aux apparences. Nous connaissons tous notre tendance de Français à blaguer sur les Belges. Les Allemands, eux, blaguent sur les Ostfriesen, c'est une région côtière du nord-est de l'Allemagne. Les Tunisiens, eux, ils blaguent sur les Libyens, et ils ont de belles blagues. Mais le point commun de toutes ces blagues, c'est qu'on fait toujours passer la cible comme quelqu'un de demeuré, de penaud, de pas très intelligent, pas très fin. Sans aller dans la généralisation de ces blagues-là, nous savons souvent railler le trait de quelqu'un, de telle personne, pourvu que ça fasse rire, n'est-ce pas? Est-ce que ça fait vraiment rire la personne dont on parle? Je connais quelqu'un à Tunis qui ne supporte plus un groupe de deux ou trois frères. Ceux-ci, ils aiment toujours blaguer, ils ont toujours une bonne blague, sur n'importe quoi. Ils pensent vraiment pas à mal, ce sont de bons gars. Mais dans l'oreille de mon ami, ces blagues, ces plaisanteries qu'ils prononcent, ça a un autre écho, ça sonne mal. Ça évoque le mépris, la déconsidération. Et la plaisanterie peut être alors ressentie comme cruelle. Et dans Proverbe, le passage suivant que nous allons lire, une parole réconfortante, c'est comme un arbre de vie, mais une parole cruelle, ça vous casse le moral. Donc attention à nos plaisanteries, attention à nos bonnes blagues. Il y a ensuite les paroles irréfléchies. parler à tort et à travers, sans réfléchir. On ne se rend pas toujours compte à ces moments-là de la portée des mots qu'on prononce. Dans les proverbes, on voit que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Plus on parle, et plus on risque de commettre des fautes. Celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Proverbe 12, tel qui parle légèrement blesse comme un glaive. Proverbe 18, les lèvres de l'insensé, celui qui parle de manière irréfléchie, se mêlent aux querelles et sa bouche provoque les coups. Tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler, ça a toujours du bon. Pendant que la langue tourne, on peut faire tourner autre chose et mettre à profit ce moment pour réfléchir. Et se poser la question, par exemple, quel est l'intérêt de celui à qui je parle ou de celui dont je vais parler? Philippiens 2. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et ce n'est pas uniquement dans la place qu'il va occuper à l'église, etc. C'est aussi dans ce qu'on va dire, lui dire ou dire de lui. Il y a une autre chose qu'il faut se demander. Comment vas-tu comprendre mes paroles ? Si je dis à un de mes employés à Tunis, si tu perds ton travail parce que tu n'es pas sérieux, tu vas être dépendant des autres et tu vas devoir tendre la main pour manger. Moi, j'exprime certainement une vérité, il n'y a rien de mal à ça, mais lui, tunisien, il va comprendre. Ha ! Toi, colonialiste, étranger, t'es venu ici faire quoi ? Tu estimes que c'est toi qui me nourris ? Tu crois que je suis rien sans toi ? Il faut réfléchir à la portée de nos paroles, à la connotation. Ce que je dirais dans cette situation serait pour lui, tunisien, une des pires insultes qui soit. Une des pires choses, c'est de généraliser, n'est-ce pas ? Combien de fois j'ai entendu « Ah, vous les Tunisiens ! » On avait dans l'équipe une personne qui parlait comme ça, les Tunisiens. C'est un peu comme si moi, ici, je disais « Ah, vous les Antillais, les Haïtiens, vous les Blancs, ça vous ferait plaisir ?» C'est choquant, n'est-ce pas ? Mettre tout le monde dans le même sac. Parole irréfléchie. Il faut faire tourner un peu son cerveau en même temps que sa langue. Et Proverbe nous donne des conseils, là. Celui qui surveille sa bouche se garde lui-même. Celui qui garde sa bouche et sa langue se garde lui-même de la détresse. Parce que quand on fait du mal à quelqu'un, finalement ça retombe sur nous aussi. Ça, c'était les paroles irréfléchies, les plaisanteries, les paroles qu'on prononce sans trop penser. Mais il y a aussi les paroles mal intentionnées. Il y a d'abord la médisance. La médisance, c'est quoi ? Médire, c'est dire quelque chose qui est vrai, mais qui est évidemment défavorable, négatif sur quelqu'un. C'est relever un défaut, une erreur, une faute, un manquement. C'est fou ce qu'on aime faire ça. Enfin, chez vous, certainement pas. Mais moi, je me suis surpris un jour à parler à un de mes proches collaborateurs. On s'entendait bien, on travaillait très bien. Mais je lui ai dit un jour, à propos d'un autre collègue qui nous faisait toujours souffrir, « Allez, viens, assieds-toi, on va médire un peu. » Texto, j'ai dit ça. Horrible. On va se raconter toutes les bêtises qu'il a encore faites aujourd'hui. On aime ça. Lisez la parole suivante, Proverbe 18. Les paroles du rapporteur, les médisances, sont comme une friandise, un bonbon, on s'en délecte, ça descend. Mais le résultat de cette pratique, c'est qu'elle casse la relation. Je dévalorise à mes propres yeux celui ou celle dont je rapporte les erreurs. Et je le fais de la même manière dans l'esprit de celui à qui je parle. Comment est-ce que je peux ensuite entretenir une bonne relation avec la personne dont j'ai relevé les défauts? Pas possible ça. Et nous sommes ainsi faits que souvent, quand nous entendons quelque chose, une médisance rapportée par quelqu'un, ben nous nous empressons de la retransmettre, n'est-ce pas? On a quelque chose à dire d'intéressant. Il n'y a rien de tel pour démolir quelqu'un. Et ça, c'est une des choses que nous vivons régulièrement dans les églises à Tunis. Et comme vous avez compris, j'en suis aussi, moi, j'en ai le problème. Mais au-delà de la médisance, il y a quelque chose encore plus fort, c'est la calomnie. Alors la calomnie, c'est dire quelque chose de mal, mais qui n'est pas vrai. Tiens, ça existe ça dans l'église, dans la mission? Alors, ce sont des choses fausses, mais parfois des choses vraies, arrangées, amplifiées, grossies. Là, il s'agit d'une mauvaise intention délibérée. Alors, dans l'Église, non, c'est pas possible. Ça n'existe pas. Dans la mission non plus. Mais regardez ce qu'écrivait Paul aux Éphésiens. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous. Et aux Colossiens, mais maintenant vous aussi rejetez tout cela, colère, animosité, méchanceté, calomnie, paroles grossières qui sortiraient de votre bouche. Pourquoi est-ce que Paul a mentionné ça dans ses lettres? Il écrivait à des chrétiens. Il écrivait à des églises. Et s'il écrivait ça, c'est que malheureusement, c'était présent dans l'église. Des gens qui venaient de se convertir importaient dans leur nouvelle vie les vieilles habitudes du passé. On ne sait pas tout débarrasser de tout. C'est aussi notre cas à Tunis. Je ne sais pas s'il y a 2 ans, j'avais amené un frère de Tunisie, Rachid. C'est un collègue dans l'école, il enseignait. Et entre-temps, il a quitté l'enseignement et il s'est mis à plein temps pasteur de l'église. Quand Rachid, il y a quelques années, travaillait dans l'école, il s'est marié. Et son beau-père, il n'est pas chrétien, mais c'est un marchand assez aisé, il a voulu faire du bien à ses filles, donc il leur a fait un legs, un don pour qu'ils puissent acheter, faire l'apport pour accéder à la propriété. Et à côté de ça, Rachid, il a fait un emprunt pour lequel j'ai dû aussi, en tant que dirigeant de l'école, m'engager à ce que son salaire soit toujours versé sur son compte. Donc, il a reçu de l'aide de sa famille, ou de sa belle famille, il a emprunté, comme on le fait nous-mêmes, et puis il a sa maison. Une maison modeste, mais une maison neuve. Depuis qu'il est pasteur dans l'église, il y a des gens qui disent « Ah, mais regardez Rachid, maintenant il est pasteur, il est soutenu par des étrangers, et maintenant il se paye une maison, etc. » Ça va vite, hein? Et je crois que nous devons toujours garder à l'esprit que notre Seigneur, lui, quand il a été arrêté sur la base de calomnie. Ces choses, malheureusement, nous arrivons à les rencontrer dans l'Église et ça fait énormément de mal. Il y a un troisième domaine qui concerne la parole. Alors, ce ne sont pas des choses automatiquement qu'on dit de mal, mais c'est la gestion du secret et de la confidentialité. Nous avons tous des choses que nous désirons garder confidentielles, pour différentes raisons. Ça peut être pour une raison de pudeur, le résultat d'un caractère réservé. Certains aiment bien étaler toute leur vie au grand jour, mais d'autres aiment bien préserver leur précaré. Ça peut être lié à des expériences délicates, douloureuses qu'on a faites dans le passé, des blessures profondes qu'on a subies. Ça peut être également une faute, une chute, un péché qu'on a commis, dont on n'est pas fier. On s'en est repenti, mais on n'aime pas étaler ça non plus sur la place publique. Ça n'aurait pas un caractère très édifiant d'ailleurs. Garder un secret, c'est le caractère d'un esprit fidèle et droit. C'est le caractère de quelqu'un sur qui on peut compter. Dans les Proverbes, le sage écrivait la chose suivante: défends ta cause contre ton prochain, mais ne révèle pas le secret d'un autre. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Vas-y, si tu dois te défendre, défends-toi, avance tes arguments, mais pas au prix de dévoiler la confidence de quelqu'un d'autre. À la limite, accepte de ne pas avoir raison pour préserver le secret qui concerne quelqu'un d'autre. Dévoiler le secret, la Bible dit, c'est aussi le propre du calomniateur, de celui qui est infidèle, de celui sur qui on ne peut pas compter. Suis-je comme cela dans l'Église? Bien sûr que non. N'est-ce pas? On n'est pas comme ça. Mais sous le coup de la colère, sous le coup de la frustration, qu'est-ce qu'on n'est pas capable de faire? Lorsque Paul, il s'adresse aux Corinthiens, il les blâme à un moment d'aller se traîner en justice les uns les autres, d'aller exposer devant le tribunal païen les problèmes de l'Église, les divisions internes. Qui est-ce qui n'a pas rencontré un jour dans une église ou des églises qui vont ester en justice les unes contre les autres et déballer sur la voie publique des choses qu'on devrait traiter en famille? J'ai connu une fois un couple de missionnaires ici en France qui étaient prêts, qui menaçaient d'aller en justice parce qu'ils étaient en désaccord avec leur organisation. C'est impensable. Mais nous aussi, nous sommes sujets à ces fautes d'aller dévoiler des secrets sous l'effet de la colère, sous l'effet de besoin de se justifier. Il y a aussi un autre domaine dans lequel l'Écriture nous invite à ne pas dévoiler ce dont on a été témoin. Et là, c'est quelque chose, à mon avis, qui nous concerne tous. Si je lis dans la première lettre de Jean, chapitre 5, les versets 13 à 15, 1 Jean 5, 13 à 15. Jean écrivait: « Je vous écris cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. Et voici quelle assurance nous avons devant Dieu: si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que l'objet de nos demandes nous est acquis. » Donc ça, c'est un texte bien clair sur l'exaucement à nos prières. Dieu nous promet d'exaucer nos prières. Et nos prières à sujet de quoi? Lisons le verset suivant, le verset 16. « Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie pour ce frère et Dieu lui donnera la vie. » Vous vous rendez compte? Jean, il écrivait au sujet de l'exaucement de la prière dans le cas où je vois quelqu'un commettre une faute. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je vois mon frère, ma sœur commettre une faute, je ne vais pas commencer à blablater, ni aller voir l'un ou l'autre et dire « Tiens, il l'a fait, elle a fait. » Non. Tu pries. Le Seigneur exauce ta prière. Et Dieu ramène à la repentance celui ou celle qu'on a vu pécher. Et à ce moment-là, si Dieu redonne la vie à cette personne qui s'est détournée de sa faute, si Dieu la rétablit, pas nécessaire d'en parler à quelqu'un d'autre. Pas nécessaire. On cite souvent le passage de l'évangile de Matthieu, chapitre 18, au sujet de reprendre un frère, une sœur qui a péché. En général, quand on cite ce passage, c'est pour dire, voilà, c'est toute la procédure. On va jusqu'à aller parler à l'Église et à considérer comme un païen. Mais si on regarde bien, la première étape, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Tu oublies le reste à ce moment-là. C'est pas la peine d'en parler. Le secret. Gardez le secret. C'est pas la peine d'étaler devant tout le monde les choses ont, les fautes que quelqu'un a commises et dont il s'est repenti. Alors, devant ces trois éléments qui nous posent problème avec notre langue, les paroles irréfléchies, les paroles mal intentionnées ou la difficulté à garder le secret, quelles sont les solutions? Jacques parle de la maîtrise de soi. Celui qui maîtrise sa langue maîtrise son corps. Et la maîtrise de soi, c'est vraiment un élément essentiel. L'effort pour surveiller sa langue, l'effort pour la maîtriser. Et là, Jacques nous dit, vous êtes vraiment des adultes, des gens matures. Mais en même temps, vous vous souvenez, il ajoute, ça c'est presque impossible à réaliser. Tu veux tenir ta langue, et vlan, t'as une parole qui s'échappe. Tu veux être correct, et vlan, t'as commis une bourde. Alors, l'effort est nécessaire. L'effort, il faut le faire, mais il est insuffisant. L'effort, il nous amène à voir qu'on n'arrive pas. Et quelle est la voie royale? Jésus, il dit que c'est la source. Traiter les symptômes, il faut le faire. Si je tousse, je peux prendre un sirop pour me soulager la toux. Et si j'ai une bronchite, ça ne va pas m'aider. Donc il faut soigner la bronchite. Et si la toux, elle vient d'une allergie, ce n'est pas la bronchite qu'il faut traiter, c'est l'allergie. Matthieu chapitre 12, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon, de son bon trésor, il tire du bon. L'homme mauvais, de son mauvais trésor, tire du mauvais. Le Seigneur, il ne se contente pas d'un vernis, il ne se contente pas des paroles arrangées, doucereuses, etc., pour cacher le reste. Non, il veut qu'on traite ce qui est à l'intérieur. Et nous sommes là, tous concernés. J'ai à voir qu'est-ce qui est à l'intérieur de moi-même. Je dois venir devant le Seigneur et cultiver ma relation avec lui et lui demander de travailler en moi pour que ce qui sort ne soient pas des bourdes et des paroles qui blessent. Les proverbes rajoutaient « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » C'est donc en soignant notre intérieur, en purifiant nos pensées, nos centres d'intérêt, que nous pouvons le mieux nous assurer qu'il en sortira quelque chose de bon, des paroles utiles, encourageantes, pleines de saveur. Assaisonner de sel, dit une traduction. Donc le sel, ça donne de la saveur. Il ne faut pas en mettre trop, juste ce qu'il faut. Équilibrer. Et donc il faudrait une deuxième mi-temps pour aborder les côtés positifs de la parole. Mais ça, je vous laisse le faire entre vous. Mais vous avez aperçu un de nos problèmes et un des sujets de prière. Priez pour nous à Tunis, pour que nous soyons tous à rechercher cette qualité de vie qui fait du bien aux autres, qui encourage, qui construit. Que le Seigneur nous aide à être des modèles pour les jeunes chrétiens, ceux qui viennent de sortir de leur ancienne vie et qui continuent à baigner dans leur famille, dans une société qui, elle, ne tient pas sa langue et qui ne se soumet pas à ses préceptes. Priez pour que leur famille, leurs collègues de travail puissent dire du bien de ces Tunisiens qui ont choisi de suivre Jésus et qu'au travers de ce bien dont ils diront d'eux, ils glorifient le Père qui est dans les cieux. Priez pour que nous arrivions à être des modèles pour eux et qu'ensemble nous puissions agir sur cet environnement. Colossiens 4, que votre parole soit toujours empreinte de la grâce de Dieu et pleine de saveur pour savoir comment répondre avec à propos à chacun. Priez pour nous.